On est toujours à la fête du livre ici à Becherel pour notre plus grand plaisir. On poursuit la rencontre et cette fois c'est Mandragore qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Mandragore, dans l'ouvrage que j'ai ici dans ma main, on a une échappée de la réalité orthonormée en Asie centrale pour mettre vos pas dans ceux des marchands de soie, du vagabondage mais aussi du collectage avec une volonté de déconstruire peut-être certains fantasmes, ceux des mille et une nuits en allant dans cette Asie centrale. Avec un concept aussi original de collectage de sons, puisque votre fidèle harpe vous a aussi accompagné. Elle a aussi, elle, fait de grandes rencontres en mélangeant son harmonie avec différents instruments que vous nous présentez justement dans cet ouvrage. Comment ce concept est né de faire une BD disque ?
Alors bah, tout simplement parce que moi je suis donc autrice de bande dessinée et musicienne depuis longtemps. Et au début mes deux pratiques étaient très séparées. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie quand même de les faire se rejoindre. Et puis, il y a le fait aussi que la bande dessinée, c'est un métier qui oblige à être beaucoup enfermé. Et moi, j'ai souvent du mal à vivre ça parce que j'aime bien être dehors, j'aime bien bouger. Donc, l'idée de voyage aussi est venue, mais dans le cadre de mon travail. Donc, l'idée de faire un récit de voyage, déjà, j'en avais fait un sans mon instrument avant, me permettait d'allier le travail et le voyage. Et après, l'idée d'y allier la musique est venue. Bon, ça a obligé à effectivement, le faire en camionnette, puisque une harpe, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à porter, évidemment. Mais en même temps, c'était un peu un défi. Et ça fait que c'est un instrument qu'on ne voit jamais sur les routes, surtout pas en Asie centrale. Donc forcément, ça provoque plein de choses. Et puis, bah, comme je l'explique au début du bouquin, c'était une espèce de fantasme, ce voyage-là, très, très long vers des contrées. En fait, moi, j'avais même pas beaucoup d'imaginaire sur cette histoire de route de la soie au départ. Il fallait partir quelque part loin ou dans un endroit que je connaissais pas, quoi. Et puis, bah, voilà, il y a des accidents de la vie qu'on fait qu'à un moment, j'ai eu un gros problème de santé qui m'a dit, bon, qu'est-ce que j'ai pas fait dans ma vie? Qu'est-ce qui me manque, en fait? Et j'avais fait le constat que j'avais fait à peu près tout ce dont je rêvais dans ma vie, sauf cette espèce de grand voyage. Donc comme je me suis sortie heureusement de ces problèmes de santé, je me suis dit, bon, bah, maintenant, c'est le moment de réaliser, parce que si après je meurs un peu plus tard, eh ben, voilà, j'aurais tout réalisé.
Le voyage, c'est le chemin le plus court pour se découvrir soi-même ?
Eh ben, le plus court, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un chemin, effectivement, pour prendre de la distance avec soi. Puis je dirais... Moi, j'ai trouvé que c'était ce voyage-là et puis d'autres particulièrement. Pour moi, c'est la meilleure école, en fait. Parce qu'au quotidien, quand on vit toujours dans le même lieu, on se rend compte qu'on est soi et on n'est pas soi, dans le sens où on est dans des mécanismes du regard des autres aussi, d'une espèce de tissu social. Et en fait, dès qu'on est projeté dans un ailleurs, surtout s'il est culturellement très différent, s'il est plus européen, on est obligé de remettre en question... ses propres valeurs, et puis on se rend compte qu'on réagit pas comme on aurait pensé. On se retrouve soi-même surpris des fois. Alors est-ce qu'on se construit, est-ce qu'on se déconstruit, c'est une grande question, mais effectivement ça fait bouger les limites du soi. Ouais.
Il y a énormément de personnages atypiques dans cet ouvrage. Je pense à Garou, je ne sais pas comment ça se prononce, cet homme obsédé par l'art, les femmes, avec son temple, la gloire de toutes les femmes qu'il a pu connaître.
Ah oui.
Et on le trouve en fin d'ouvrage, un personnage en couleur.
Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, on a à la fois rencontré des gens du milieu artistique, puisque bah, étant dans le milieu artistique au départ, moi, j'étais avec mon compagnon, donc on a quand même cherché un petit peu des contacts au départ. Mais très vite, comme on se baladait avec l'instrument, puis qu'il y avait aussi le dessin qui était là, puisque en fait, moi, j'avais aussi un carnet de voyage dessiné. Et puis, j'avais fait une petite BD pour expliquer que par des dessins ce qu'on était en train de faire, puisqu'il y a des gens qui n'avaient pas la même langue que nous, à qui on voulait expliquer. On cherche des musiciens, on voudrait bien enregistrer des musiciens. Et donc, de fil en aiguille, on s'est retrouvés à envoyer... chez le cousin, chez le frère, chez machin, chez le musicien du coin. Et forcément, on se retrouve à rencontrer des drôles de personnes, quoi. C'était effectivement là, ce Bulgare qui avait construit une espèce de maison-temple sans aucune notion d'architecture, mais plein de notions artistiques. C'est, c'était une de ces super figures ouais, rencontrées. Ouais.
Et quand le temps passe, depuis, il y a eu des naissances, celle de l'enfant de Tony et Nadia, mais également des décès, celle de Peter, par exemple, ou de Josiane, Peter qui était votre traducteur. Est-ce qu'il y a un de ces personnages dont vous aimeriez nous parler ?
Oui, c'est vrai que ce qui touche à la fois quand on fait des voyages loin comme ça, c'est que les personnes qu'on rencontre, on sait que c'est fugace, mais en même temps, on ne veut pas que ce soit fugace, c'est-à-dire on continue à... C'est des rencontres qui sont forcément très fortes, en fait, parce que c'est des moments où, comme je disais, on fait bouger ses propres limites, on est dans le questionnement, on est un peu fragilisé, en fait. Et les personnes qu'on rencontre à ce moment-là, on se reconstruit une image de soi au travers d'elles, en fait. Elles nous aident. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment des personnes qui nous ont aidés à nous voir un peu nous-mêmes. Même dans les discussions, on se posait des fois des questions. Les questions sur les religions sont revenues souvent parce que dans chaque pays, les Hongrois étaient très chrétiens, les Turcs musulmans, les Iraniens, voilà. Musulmans aussi, et on est amené à avoir des discussions finalement assez profondes, et ces moments-là sont très forts, mais après des fois c'est des gens qu'on va jamais revoir peut-être, et nous on a refait un voyage en 2015, alors pas jusqu'à Tashkent comme durant ce voyage au Route de la Soie, mais on est repassé dans certaines villes où on était passé. Effectivement, il y a trois personnes qui étaient décédées, puisqu'il y a aussi une petite mamie qu'on avait enregistrée. Bon, elle, on s'y attendait parce qu'elle était très âgée, mais il y a deux autres personnes qui sont parties assez jeunes. Et en fait, quand on retourne comme ça dans les endroits où on a rencontré ces personnes, le temps a passé, mais dans notre tête, le temps n'a pas passé, au fond. Enfin, on voudrait que ça reste pareil, quoi. Et ça, c'est assez troublant. Et le cas, justement, de Peter, qui était notre traducteur hongrois, c'était encore plus troublant, parce que c'était un ami que mon compagnon Goum avait rencontré quand lui, il avait 20 ans. Donc, il l'a rencontré à l'âge de 20 ans, il l'a revu à l'âge de 45 ans, et puis, la fois d'après, on est allé, il était mort. On a vu du coup sa famille qui était là, on a pu faire un rituel pour s'en souvenir, mais voilà, c'est comme s'il y avait un autre monde voilà, à côté, et puis de temps en temps, on y retourne, mais dans nos têtes, on continue à le faire vivre, en fait. C'est ça qui est, que moi j'ai découvert, et j'en parle à la toute fin du livre, justement, c'est que nous, on continue à reprendre notre quotidien ici, et puis on a un imaginaire qui reste là-bas, avec ces personnes-là, et... alors qu'eux, ils vivent tout à fait d'autres choses, mais nous, on laisse un petit bout de nous avec eux, quoi.
Justement, le retour, vous en parlez en fin de l'ouvrage, avec le retour à cette réalité orthonormée, les difficultés que ça représente aussi, ce vide et ce retour au quotidien. Là, le dessin devient lui aussi, j'ai l'impression, un peu différent, moins riche, moins pas exotique, mais en tout cas, c'était volontaire, ce côté un peu pas plombant, mais... quand même, un peu, il y a eu de la tristesse à ce retour de voyage.
Ouais. Oui, mais en fait, de toute façon, en discutant avec pas mal de gens qui aiment bien faire des longs voyages, c'est assez classique. Hein, quand on revient, on se retrouve à devoir reprendre le quotidien. Alors, on a eu un grand vécu à un moment, et puis on a l'impression qu'on, c'est pas qu'on revient à zéro, parce qu'on a quand même vécu des choses, mais on quitte les collègues de travail, on revient, ils sont au même point, ils reprennent leur discussion, et puis nous on est complètement décalés, en fait, et ce décalage fait qu'à un moment on se dit, mais est-ce que je vais être capable de reprendre ce quotidien et de me remettre dans ce truc là et il y a toujours un certain nombre de semaines, on n'y arrive pas, en fait. On est complètement mal et il faut se réorganiser. Et puis là, en plus, effectivement, comme c'était 7 mois, c'était assez long. Et oui, il y a eu ce passage un peu avide. J'ai mis aussi un petit peu de temps avant de réaliser la bande dessinée. Hein, c'est pour ça, c'est un voyage qui date de 2009. Donc, j'ai mis 6 ans à la dessiner, parce que la première année, j'ai rien dessiné quand je suis rentrée, en fait. Il fallait se remettre dans le moule. Et ça, c'est dit dur. Et après... j'ai repris les photos, les notes, les souvenirs, et puis j'ai fait le deuxième voyage de faire la bande dessinée. Et ça, par contre, c'était super, parce que du coup, c'était repartir à chaque fois que je dessinais, finalement. Et puis après, ce qui est super, c'est aussi de retourner là-bas, donner le livre aux gens qui sont dedans. Ça c'est génial.
Ce livre, il est inscrit dans une temporalité puisque vous l'assumez complètement. Vous parlez de la situation de la France, du mandat à Sarkozy à l'époque, de quand vous ouvrez Libération et la crise grecque, toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que vous avez voulu y intégrer ces éléments-là ?
Parce que bon, déjà, pour moi, le récit de voyage, c'est aussi un petit peu le domaine du reportage. Donc, je trouve qu'on doit une certaine réalité. J'ai un peu de mal avec le récit de voyage qui donne une idée parfaite de chaque pays, esthétisante. Parce qu'on sait très bien, quand on voyage, que voilà, y a la carte postale à tel endroit de la ville, et puis on va dans deux rues à côté, puis c'est pas du tout pareil. Donc il y a ce souci-là, et puis tout bêtement, parce que quand on voyage, en tout cas quand on voyage comme ça, c'est-à-dire en camionnette ou en train ou en stop, elle nous vient directement à la face, en fait, l'histoire et la politique. On est obligé de la voir, on ne peut pas ne pas la voir. Enfin, c'est difficile de ne pas la voir. Donc voilà, nous effectivement, on est arrivé... Quand on est revenu, on est passé par Thessalonique, et il y avait des manifs, il y avait des flics partout, toutes les vitrines étaient brisées. Bon, ouais, elle est là, l'histoire, qu'on ne peut pas l'éviter, quoi.
Donc, comme on l'a dit dans ce très beau livre, il y a aussi un livre CD, il y a aussi possibilité de se procurer les sons pour ceux qui ne sont plus équipés de lecteurs CD.
Et oui, ça existe.
Il y a des petites indications au moment où vous pouvez vous plonger dans le sonore. Et nous, on adore ça, le sonore ici à Scilab. Cet ouvrage est publié aux éditions L'Œuf, qui est une maison d'édition associative. Comment ça fonctionne ?
Alors, L'Œuf a été créé il y a plus de 15 ans maintenant par des jeunes auteurs de bande dessinée. Moi, je les ai rejoints 3 ans après la création. Au début, c'était plutôt de l'ordre de la revue de bande dessinée. Hein. C'était des gens qui sortaient de la fac. Et puis finalement, c'est une structure qui petit à petit, d'année en année, est devenue une vraie maison d'édition. Et il y a eu plusieurs équipes à passer, mais toujours en majorité des auteurs de bande dessinée. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire que de l'autopublication. Il y a certains des ouvrages qui sont effectivement du groupe d'auteurs qui participent à la maison d'édition, mais ça fonctionne comme toute maison d'édition, en publiant n'importe quel auteur qui fasse de la bande dessinée mais qui plaise au comité éditorial, quoi. Il n'y a que 3 livres par an, donc c'est un rythme tranquille mais qui dure, voilà, depuis pas mal d'années déjà. Donc voilà, il y a plein d'auteurs à découvrir, dont il y a certains bouquins derrière. Et puis hier, il y avait Laetitia Rouxel qui était là aussi, qui tient la maison d'édition avec moi, puis avec 2 autres personnes, voilà.
Quand vous parlez dans l'ouvrage que c'est le début d'une deuxième vie, c'est cette vie que vous décrivez où vous mélangez vos deux pratiques, où aujourd'hui il y a une vraie porosité entre la pratique musicale et la pratique dessinée ?
Oui, là, de plus en plus, je mélange les deux. D'ailleurs, je fais beaucoup de spectacles où le dessin se mélange à la musique, au récit, au conte. J'aime bien les formes, en fait, éclectiques. J'ai du mal à être que dans un seul truc. Je trouve que, je sais plus qui a écrit ça, mais pour moi, l'intelligence, c'est le fait de pouvoir justement relier plein de choses différentes pour faire émerger une idée. Et je trouve que être trop spécialisé dans un domaine, c'est une seule page du livre, et alors qu'il y a finalement il y a plein de choses à relier pour mieux comprendre une idée, quoi.
Et parmi les projets de ce type que vous avez en tête ou déjà dans votre valise prêt à naître, vous pouvez nous en parler?
Voilà, je suis sur une adaptation bande dessinée. Là, je n'ai jamais fait d'adaptation. Enfin, si, j'ai travaillé un peu sur L'Homme Semence, mais là, je suis sur une adaptation de roman qui est tout simplement, je reviens un peu à mon adolescence, un roman qui s'appelle Mandragore, qui a fait que j'ai choisi ce pseudonyme, qui est un roman fantastique d'un écrivain allemand de la fin du 19e, qui est un écrivain qui a été un petit peu oublié, sauf par les spécialistes du fantastique. Et sinon, parallèlement à ça, j'ai beaucoup de projets musicaux. Bah, du coup, de ce voyage-là est né aussi des projets musicaux, évidemment, où j'adapte le répertoire de la route de la soie, donc c'est très très vaste, à la harpe celtique. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des harpes, hein, dans l'univers ottoman, dans l'univers turc, iranien. C'est un instrument qui a malheureusement quasiment complètement disparu de ces pays-là, mais qui a eu une tradition, alors plutôt dans la cour des sultans, et quand il n'y a eu plus de sultans, c'est pas passé dans la musique traditionnelle, mais je me suis un peu donné le challenge d'essayer de faire revenir la harpe un peu dans cet univers-là, et il y a des choses à faire. Évidemment, c'est pas la harpe celtique qui est plutôt sur le modèle irlandais, mais c'est quand même... la harpe existait quand même dans ces musiques-là. Donc voilà, j'ai un groupe de musique, ce qui s'appelle Leilek, qui joue ces musiques-là. Et puis on fait des spectacles, voilà, comme je disais, qui allient le dessin, la musique, le conte. Voilà. Et puis j'espère pouvoir aussi un peu revoyager. Mais je ne revoyage pas chaque année, parce qu'il faut aussi créer. Mais c'est vrai que moi, tous les 4-5 ans, j'en peux plus. Il y a un moment où il faut partir un peu quelque part pour prendre un peu de recul, quoi.
Elle est là, cette harpe. Est-ce qu'elle chanterait un petit peu pour nous,
si une petite chanson, bien pour finir, une petite chanson traditionnelle kurde. Voilà.
Mandragore, pour tout ce qui est dessin, vous la retrouverez juste derrière, sur le stand des éditions L'œuf, avec cet ouvrage Ipak Yoli que j'ai juste devant moi, Route de soie, SOI, entre parenthèses E. Maintenant, on découvre ce morceau. Merci Mandragore.
Merci.
Merci.
Mandragore a retrouvé pour l'ouvrage Ipak Yoli et bien d'autres tout par ici, et ça se poursuit pour cette fête du livre à Becherel.